Et maintenant, c'est l'heure des RLP Sport avec Thomas. Bonsoir et bienvenue en direct sur Radio Libre en Périgord dans l'émission RLP Sport, deuxième édition de l'émission. Et ce soir, nous allons parler tennis. Nous recevons le président du comité départemental de la Dordogne, Clément Ivoz. Bienvenue Clément.
Merci, bonsoir à tous.
Le tennis en France, c'est la deuxième fédération la plus importante en nombre de licenciés, plus d'un million. Combien nous avons de licenciés en Dordogne ?
Alors en Dordogne, on a fait un très bon cru cette année puisqu'on est à 6400 voilà, sur la fin de la saison 2023. Et ça veut dire qu'on a eu une augmentation de 10% par rapport à l'année dernière. On était sur du 5008. Donc voilà, c'est une très belle année. Ça confirme aussi le renouveau et l'élan du tennis depuis en fait la période Covid, puisqu'on était un peu le seul sport praticable.
Ouais, c'est ça.
Et on en a, heureusement pour nous, tiré profit.
D'accord.
Et puis, les jeunes sont revenus dans les écoles de tennis, les adultes aussi. Et puis, avec l'émergence de nouvelles disciplines, comme le padel aussi, on en parlera certainement tout à l'heure. Eh bien, on arrive à ce beau chiffre ici. Et puis là, sur la saison 2024 qui a commencé il y a 15 jours,
c'est ça.
On a, une augmentation de 29% de date à date, c'est-à-dire
d'accord.
Par rapport au 15 septembre de l'année dernière.
D'accord.
Donc, on va dire que ça part bien.
Ouais, ça part très bien. Il y a beaucoup de fédérations ou de comités qui aimeraient avoir ça. Combien de clubs à peu près en Dordogne ?
Alors, on a 56 clubs
d'accord.
Cette année.
56 clubs, donc, pour où sont répartis les 6400 licenciés.
Exactement.
C'est bien. La part des féminines, à peu près, au nombre de licenciés en Dordogne ?
Alors, on est entre 30 et 40%.
Voilà, d'accord,
selon
quand
les
même.
Années. Oui, c'est un sport qui est quand même assez féminin.
Oui.
Et on avait cette année aussi le retour des féminines dans les clubs. Alors, ça ne se traduit pas encore tout à fait dans la compétition. On a encore parfois du mal à attirer les jeunes filles, les dames dans les compétitions.
C'est plus du loisir ou du...
Du loisir. Alors, pour les loisirs, on a un dispositif fédéral qui est les raquettes FFT, qui est vraiment pour le public loisir, une petite compétition de double non homologuée.
D'accord.
Et ça, ça marche très bien. On a une trentaine d'équipes sur le département. Mais après, dans nos tournois classiques, on a toujours du mal à avoir des tableaux assez denses. On en a, quand on en a une vingtaine, on est content. Alors, on ne devrait pas s'en satisfaire.
Oui.
Alors que chez les hommes, on est à 100, 120. Donc, c'est vrai que c'est
difficile. D'accord. Mesdames, faut pas hésiter à s'inscrire.
Ouais, n'hésitez pas.
N'hésitez pas, voilà. On va y revenir. On a parlé, justement, en introduction et en off tout à l'heure, du paddle. L'émergence du paddle en France, parce que ça... C'est hispanique, on va dire, hispanophobe, est-ce que ça, c'est un levier pour attirer des licenciés ?
Alors, bien sûr, le padel, ça fait partie des leviers qu'on met en place au sein de la Fédération de tennis, puisque c'est le padel, comme d'autres sports, sont aussi reliés à notre fédération. Et depuis, nous, 2-3 ans, c'est très récent, l'essor du padel en France.
Ouais.
C'est vrai que ça a été exponentiel.
Ouais.
Ça explose. En Espagne, c'est déjà le cas depuis 10 ans. Il y a déjà beaucoup, beaucoup de pistes. Et c'est un sport qui est pratiqué par énormément de monde, même presque devant le tennis. Oui, des pistes de padel.
On dit des pistes
la
de padel.
Pista.
La pista.
La piste de padel. Et nous, en Dordogne, on s'est vite équipé. On a eu la chance d'avoir des communes très réactives qui ont maillé un peu tout le territoire.
Ouais.
Ce qui fait que maintenant, sur Bergerac, sur Sarlat, sur Périgueux, sur Ribérac, sur Thiviers, Trélissac, Saint-Astier, etc.
Ouais, il y a eu le budget participatif qui a beaucoup
exactement,
aidé.
Exactement. Ouais. C'est des projets qui sont passés au budget participatif. Quasiment tous les clubs ont réussi à les passer.
Ouais.
Et puis voilà, grâce au concours du département, ils avaient déjà une petite enveloppe de 12 000 euros, ce qui est non négligeable pour...
Ouais.
Apporter aux collectivités et puis qui ont suivi aussi. Et moi, je les remercie souvent puisqu'il y a des départements où on a encore zéro piste. Et puis nous, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir tous ces clubs. On a aussi deux structures habilitées, deux structures privées sur Périgueux. Voilà, c'est un fonctionnement un peu différent, mais ça apporte aussi une complémentarité par rapport à nous, ce qu'on a dans les clubs.
D'accord. Le tennis... La définition du tennis pour le président que tu es, c'est un sport individuel ou un sport d'équipe ?
C'était un peu le slogan pour moi qu'on avait à la fédération, le tennis, un sport pour tous. Voilà. Okay. C'est-à-dire qu'on peut, voilà, quel que soit son âge, quel que soit son niveau, pratiquer le tennis, que ce soit en loisir, en compétition. On accueille, nous, du baby tennis à partir de 3-4 ans.
D'accord.
Et puis, on a encore des gens qui ont plus de 80, plus de 90 ans, qui pratiquent très régulièrement. Puis, on avait d'ailleurs une championne du monde, Marie-Jeanne Marty, là, qui est licenciée au Club du Cap, qui a été championne du monde l'année dernière,
ouais,
en plus de 80 ans.
En plus de 80 ans, ouais, bah, chapeau, madame, parce que là, quand même. Oui. Très bien, on entend... On peut attirer des enfants de 3-4 ans. Ça, c'est très rare dans les fédérations sportives. D'habitude, c'est 6 ans. C'est aussi un avantage du tennis.
Oui, c'est un avantage pour nous parce qu'en fait, on a une école de tennis qui est très structurée. Voilà, chez les petits, ça s'appelle la Galaxy Tennis, avec en fait des balles de différentes couleurs qui correspondent à des niveaux. Et en fait, chez les tout-petits, c'est plus un travail de motricité qu'on fait dans les clubs avec du ballon roulé. C'est des gros ballons gonflés qu'on met par terre et qu'on fait rouler. Un peu comme du hockey, où on essaye de marquer des buts, mais déjà on a le positionnement, c'est-à-dire qu'on se met de côté, eh bien on frappe devant, etc. Et puis des petits parcours, comme on a dit, voilà, pour travailler ben, un peu tout ce qui est l'équilibre, la dissociation du corps, ben, du corps. Et puis bon, c'est du jeu évidemment, c'est des petits
c'est
cours
ludique,
souvent,
mais...
voilà, du très ludique, trois quarts d'heure, une heure.
Ouais.
Et c'est des choses qui marchent très bien et on attire beaucoup de petits.
Très bien. Et dans les clubs, est-ce que au niveau de la formation des encadrants, il y a un travail de fait. Est-ce que tous les clubs ont un cahier des charges à remplir à ce sujet-là ?
Alors, la plupart des clubs, on va dire, on est sur du 90, voilà, 95% qui ont des écoles de tennis, ont des enseignants professionnels qui interviennent dans les clubs. Alors, ce sont soit des moniteurs diplômés d'État, soit des CQP, soit des initiateurs. Et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir voilà, ces personnes-là qui ont été formées. Voilà, c'est un an, deux ans de formation, trois ans pour certains, à l'accueil de tous les jeunes publics. Et puis, y a évidemment de la formation continue qui est organisée par la fédération, par les comités, par la ligue. Et puis, nous aussi, au sein voilà, du comité, on a plaisir à les rassembler deux, trois fois par an, tous nos enseignants, pour voir un peu les nouveautés,
oui,
comment on
oui.
peut faire évoluer les choses, puisque ben, voilà, les enfants d'aujourd'hui ne sont plus ceux qui étaient il y a 10 ans, il y a 15 ans.
Ouais.
On en a tous l'illustration dans les clubs. Et donc, il faut aussi qu'on s'adapte.
Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a un conseiller technique,
oui.
Quelqu'un qui se déplace dans les clubs également, sur la Dordogne ?
Voilà. Nous, on a un conseiller sportif sur le territoire qui est Thibaut Courlet,
oui.
Voilà, qui est un salarié de Ligue et qui se déplace dans les clubs, justement, qui entraîne aussi tous les enfants qui sont listés au niveau.
Très bien. On voit que le nombre de licenciés en Dordogne au tennis augmente, que les clubs se maintiennent, le nombre de clubs se maintient. Et également... le siège du comité qui se trouve à Trélissac, derrière le stade Firmin Doudou, subit également des améliorations, des changements actuellement.
Tout à fait. Alors en fait, notre comité là, qui est situé à Trélissac a été repris par le conseil départemental.
Ouais.
Et là, s'en est suivi toute une phase de travail, de réflexion sur la structure. Et il en est ressorti que là, actuellement, la structure est en train d'être démolie.
Oui, ça
c'est quasiment terminé,
ouais.
Et va être reconstruite, voilà, pour une réception des travaux, on va dire printemps 2024, avec quatre cours intérieurs de tennis, deux pistes de padel intérieures, une salle de restauration, des vestiaires, salle de musculation. Nos bureaux là-haut et
ouais.
Une salle aussi, une grande salle de réunion.
D'accord.
Donc ça va être un très bel outil qui a aussi une position centrale dans la Ligue Nouvelle-Aquitaine, puisque nous, on est bien placés par rapport à Bordeaux, par rapport à Angoulême,
Limoges,
Brive, et puis aussi par rapport aux Pyrénées-Atlantiques ou à Poitiers. C'est un peu un carrefour pour la Ligue. Donc on a tout à fait notre rôle à jouer après avec ces belles infrastructures.
Très bien. C'est des bons arguments. à titre personnel, Clément, tu es un des plus jeunes présidents, c'est ça, de
oui,
comité ?
Je suis encore le plus jeune. Voilà.
Encore le plus jeune. Quel âge tu as ?
La 34.
34, donc 34 ans. Qu'est-ce qui a poussé le joueur de tennis ou et dirigeant de club à prendre ses responsabilités ? Parce que c'est quand même lourd.
Alors, moi, j'ai un parcours, on va dire, assez classique. Moi, j'ai commencé voilà, le tennis assez jeune. Et puis, très tôt, vers 14-15 ans, je me suis investi au sein de mon club à Thiviers,
oui.
Dans ce qu'on appelait le club junior. C'était voilà, quelque chose qui était proposé par la fédération, piloté par notre moniteur de l'époque. C'était, on était 5-6 jeunes et puis on avait un petit budget pour décider de petits projets, de la sortie de fin d'année, ce genre de choses. Et puis, en fait, naturellement, je me suis occupé après du tournoi du club pendant l'été. Et puis après, je suis rentré au bureau adulte avec aussi les autres personnes qui étaient avec moi au club junior. Donc, c'était une équipe assez jeune. Et puis, à 20 ans, j'ai pris la présidence de mon club à Thiviers pendant 7 ans. Voilà. Ouais. Bon, j'étais bien entouré. Hein. J'avais une bonne équipe. On n'est pas tout seul hein, quand on est.
Ouais, mais le président, c'est quand même. Comme je dis souvent, c'est la personne qui peut aller en prison.
Oui, voilà. J'y suis pas encore allé.
Ouais, c'est ça.
Et puis voilà, 27 ans après, je suis rentré au comité aux côtés de Jean-Michel Hugues, qui était mon prédécesseur. Et puis pendant 3 ans, j'ai été son vice-président. Et puis voilà, aux dernières élections, je me suis présenté. Et puis c'est vrai que voilà, c'est un poste avec des responsabilités. Il y a beaucoup de travail. Je dis souvent, moi, je fais 2/3 de tennis et 1/3 de maths parce que je suis prof de maths.
Ouais.
2/3 de tennis, 1/3 de maths. Mais c'est vrai que c'est passionnant. Voilà, je suis aussi élu à la Ligue Nouvelle-Aquitaine, qui est immense. Hein, c'est 12 départements.
Mais c'est comme dans toutes les ligues voilà, sportives, là, qui regroupent l'ensemble de la région, en fait.
C'est ça. Donc, avec les atouts et les défauts d'un territoire aussi vaste. Mais c'est vrai que voilà, moi, j'ai toujours trouvé beaucoup de plaisir à faire ce que je faisais. Et puis, tant que voilà, j'ai ce plaisir-là, je continuerai. Après, voilà, peut-être que je ferai autre chose aussi, mais je pense que là, je vais me représenter pour un deuxième mandat. Avec le centre départemental qui arrive, voilà, on a beaucoup de projets aussi à venir. Et puis après, après on verra.
Très bien, parfait. Ouais, oui, la fédération. La fédération qui a eu une particularité à un moment donné, c'est un ancien international de rugby qui avait été président. Monsieur Gachassin, donc c'est quand même le tennis s'ouvre aussi vers les autres sports et peut-être vers d'autres idées, d'autres approches.
Bien sûr, et puis nous on a toujours beaucoup de partenariats dans les clubs aussi, avec les clubs de rugby, les clubs de foot. Souvent, les footeux, quand ils ont fini la saison, viennent un peu l'été jouer au tennis.
Même pendant, pour certains, ceux qui m'entendent.
Même pendant, ils viennent faire des tournois, des tournois de padel aussi.
Exactement,
Ils viennent faire des tournois, donc c'est vrai que voilà, il y a une belle complémentarité aussi, on a beaucoup de joueurs qui sont sur ces deux disciplines, puisque c'est assez complémentaire aussi, sport individuel, sport d'équipe. Et puis, on a toujours plaisir, nous, à accueillir tout le monde dans nos clubs, bien
parfait,
sûr.
Ouais. Est-ce que l'action de recrutement, même quand ça marche, comme on voit là ici en Dordogne, est-ce qu'il y a toujours des actions qui sont faites auprès de l'éducation nationale pour sensibiliser les jeunes?
Alors, bien sûr, nous, on a des interventions régulières dans les écoles. Surtout dans les écoles maternelles et primaires. Il y a des programmes même qui ont été faits en partenariat entre l'éducation nationale et la Fédération française qui sont sur Canopée. Par exemple, de la cour au cours, c'est pour les maternelles. Ouais. la cour de l'école au cours de tennis,
c'est
réfléchi.
En plus, ils sont intelligents.
Et donc, on peut laisser du matériel justement dans les écoles maternelles, des petits filets, des petites raquettes et des balles en mousse, pour que, évidemment, au niveau de la sécurité, il n'y ait pas de souci. Ouais. Et puis nous, nos moniteurs viennent faire des interventions ponctuelles avec une classe ou alors des choses un peu plus développées, des cycles de 6-7 semaines pendant l'année pour découvrir l'activité.
Est-ce que c'est difficile d'attirer des enfants quand, au niveau national et international, on n'a pas de tête d'affiche, comme on peut l'avoir dans d'autres sports?
Alors, c'est sûr que si on avait eu un gagnant à Roland-Garros ou un gagnant à l'US Open...
Ça fait juste 40 ans qu'on l'attend.
Hein. Alors, chez les filles, on a eu des gagnantes plus récentes. On a eu Amélie Mauresmo, Marion Bartoli.
Ouais, Bartoli, c'est 2013.
Voilà, 2013.
Ouais, Wimbledon.
Voilà.
Ça commence à faire quand même.
Ouais.
Maintenant, elle fait de la radio, donc ça amène à tout le tennis.
C'est vrai que ça boosterait, on le voit. Enfin, on voit bien les statistiques quand on gagne une Coupe du Monde. Quand il y a des événements, je pense là, la Coupe du Monde de rugby aussi qui est organisée en ce moment. Je pense que pour le rugby, c'est bénéfique aussi.
Oui, on a eu le rugby club de Trélissac la semaine dernière qui nous a dit qu'il comptait vraiment là-dessus. Hein. On s'appuie sur ça. Alors, l'avantage du tennis, c'est qu'il n'y a pas de Coupe du Monde, il n'y a pas de championnat d'Europe. C'est tous les ans les grands tournois.
Oui, on retente notre chance tous les ans.
Voilà, c'est bien. Non, mais à force, on va gagner.
Voilà, on a gagné. Gagné en junior, on en parlait tout à l'heure, l'année dernière, avec une très belle génération qui arrive, là, sur les moins de 20 ans, moins de 19 ans, qui sont dans c'est les deux meilleurs mondiaux,
dans leur
catégorie d'âge, Lucas Vanaché et Arthur Fils.
Ouais.
Voilà, moi, que j'ai vu évoluer depuis petit, puisque je les avais vus à La Rochelle, à la Coupe Galéa, qui était la Coupe un peu Davis junior. Et c'est vrai qu'ils ont eu une très belle évolution. J'ai eu la chance de les voir aussi à Roland-Garros cette année. Et puis voilà, ils continuent leur chemin, ils arrivent déjà top 100, top 50, donc ils ont une progression qui est très très rapide.
Donc top 100, top 50, pour les, ceux qui ne sont pas initiés, on est dans un classement mondial.
Dans un classement mondial.
C'est un ranking mondial, ouais. Sur une saison,
ça voilà, un sur 12 mois, c'est 12,
sur 12 mois
glissant.
Voilà, d'accord. Donc on a quand même des gens qui sont dans les 100 premiers, on en compte quand même une bonne petite dizaine, peut-être.
Oui, j'ai pas vérifié là, les derniers classements, mais on avait voilà une dizaine. Donc on est toujours une nation qui a beaucoup de joueurs dans le top 100. Après, toujours le reproche qui nous est fait, oui, mais on n'a pas le numéro 1.
Ouais. Alors pas le numéro 1 peut-être, mais on gagne pas. Voilà, ouais, on gagne pas. On gagne pas. On voit qu'en jeune, ça marche bien. On en parlait aussi tout à l'heure. Les 4 derniers demi-finalistes de Roland Garros Junior l'année dernière sont français. Comment on explique qu'on n'arrive pas à passer le, comme on dit dans le golf, le cut là ? Comment on passe pas ce cap ? Pourquoi ?
Alors bon, si on avait toutes les réponses, on aimerait bien les avoir. Après voilà, il y a plusieurs facteurs. C'est vrai qu'entre le circuit junior et le circuit après adulte professionnel, il y a quand même voilà un fossé non négligeable. Certains le passent très vite.
Oui.
On voit des jeunes là, Carlos Alcaraz,
par exemple,
arrivé voilà en fusée sur le circuit. Bah nous, voilà, la fédération se remet aussi, bien entendu, en question, hein, très souvent. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut améliorer ? Il y a des pistes, bah, évidemment, sur le mental, sur le physique. Voilà, on en parlait en aparté tout à l'heure. Peut-être qu'on s'est rendu compte que certains joueurs dans des pays voilà, d'Amérique latine, en Espagne, peut-être avaient un jeu, on va dire, entre guillemets, moins beau que nous.
Moins technique.
Voilà, moins technique. Voilà. Nous, ils savent tout faire parfaitement techniquement. Mais physiquement, bah, voilà, ils étaient meilleurs que nous. Et on voyait que les entraînements étaient un peu différents. Par exemple, en Espagne, on travaille énormément le jeu de jambes, l'endurance. Et puis, ben, à la fin, ce sont souvent eux qui gagnent. Voilà. Donc, peut-être oui. Que voilà, il y a des pistes, il y a des pistes à retravailler
creuser, ouais.
Là-dessus. On avait aussi une politique à la fédération à un certain moment qui était basée voilà sur un seul joueur, c'est-à-dire qu'on mettait le paquet sur un seul joueur. Nous, par exemple, dans les comités départementaux.
Un seul joueur par comité.
Voilà, on va dire par catégorie d'âge.
D'accord.
Voilà, on avait
ouais.
plusieurs, mais voilà, c'était voilà, on mettait vraiment l'accent sur l'individu. Et puis maintenant, on y revient un petit peu. On repart sur des bases beaucoup plus élargies quand ils ont 5, 6, 7 ans. Voilà, avec un volume d'entraînement qui est conséquent, pour après avoir cette base solide et puis les monter tous ensemble, parce que peut-être que celui sur lequel on avait fait les paris à 10 ans, 11 ans,
oui.
Ben, ne sera pas celui qui sera au sommet à 15, 16 ans.
Ça me rappelle la remise en question qu'avaient effectué certaines fédérations, notamment la natation, qui n'avait pas gagné pendant longtemps et qui maintenant nous ramène des médailles olympiques. Le football l'a fait, le rugby l'a fait, pas mal de fédérations. Je pense que l'athlétisme devrait aussi peut-être y songer. Ça, on en parlera. J'en ai parlé au président de la Ligue la semaine dernière. Au niveau de la Dordogne, on a quand même des sacrés espoirs quand même qui sont en train de monter.
Bah, tout à fait, on a eu des très bons joueurs hein, qui sont issus de la Dordogne. On pense à Audrey Albier, voilà, il y a quelques
ouais, mais
années.
C'est une sarladesse, c'est normal.
Ah bah, voilà. qui est voilà, dans les 200-250 meilleurs mondiaux, qui a fait une très belle saison cette année.
Ouais.
On a des jeunes qui arrivent, là, Maxence Rivet de Boulazac, là, qui est oui. maintenant numéroté, qui a fait une très belle saison, voilà, qui a pris 4 classements dans l'année, numéroté français.
Ouais, c'est
voilà,
ça.
Et qui a gagné ses premiers points aussi sur le circuit ATP.
Voilà. L'ATP, c'est le circuit mondial.
Voilà. Voilà, et qui a gagné une ou deux fois des joueurs qui étaient dans les 600 meilleurs mondiaux. Donc,
ouais.
C'est de sacrées belles performances. Donc, il est tout en train de monter. Et puis, on a des plus jeunes aussi qui sont
ouais.
en train d'arriver, voilà, un peu plus petits.
Oui.
On a des petits qui ont 10 ans, 11 ans, des petits qui ont voilà, 6-7 ans qui sont aussi dans les tout meilleurs de ligue. Et puis, bah, voilà, on essaie de les accompagner. Nous, notre rôle en tant que comité, c'est vraiment les moins de 10 ans. Moins de 12, moins 14 sur les projets forts. Et puis après
bah,
ça bascule sur la Ligue, sur un pôle, après sur un pôle France. Mais voilà, on a toujours plaisir de voir des jeunes joueurs issus de nos rangs,
formés,
voilà,
chez,
formés
nous,
chez nous, dans
ouais.
nos clubs.
Ah ouais.
Et voilà, arriver à ce qu'ils aient de belles carrières.
Alors, on a parlé d'identification vers des stars françaises, par exemple. Par contre, avec un regard extérieur, je ne pratique pas le tennis. Mais certains comportements de joueurs français, malheureusement, font la une. Je pense à Benoît Paire, Hugo Gaston, Corentin Moutet. Est-ce que ça, c'est pas néfaste quand même auprès des parents pour inscrire les enfants dans les écoles de tennis ?
Alors, bien sûr que pour nous, au sein de la fédération, ça donne une image très négative voilà, du tennis avec des comportements un peu d'enfants gâtés, de crises sur le terrain, de caprices. Et bon, ils ont été sanctionnés pour ça, justement. Il y a eu des sanctions, mais c'est vrai que c'est un peu regrettable. Après, si on se fait un peu l'avocat du diable, il y en a qui disent « oui, mais ça fait le show, ça fait partie du spectacle ». Et puis, il y en a qui viennent justement pour voir ça.
Ouais. Alors si c'était McEnroe, ok.
Voilà.
Mais
on
McEnroe
pense
est gagné.
À Nick Kyrgios aussi, là, l'Australien, qui est aussi dans son genre assez particulier.
Ingérable.
Assez ingérable. Ouais. Mais voilà, c'est des gens qui aussi soulèvent les foules. Je sais qu'à chaque fois qu'il y a un match de Benoît Paire à Roland-Garros, et là, moi, j'étais sur son premier tour là, cette année... Voilà, c'était une ambiance incroyable, le stade était plein. Donc c'est vrai que ce côté-là, un peu showman, fait du bien, mais on aimerait bien gommer l'autre côté, tous les écarts de comportement. On se rappelle aussi des Jeux Olympiques, où il y avait eu toute une série de choses pas très agréables.
Il n'y avait pas que dans le tennis qu'il s'est passé des choses. Il y a d'autres sports, il y a d'autres disciplines où il y a des problèmes quand même. Je tiens à le dire, je suis pas l'avocat... je ne vais pas porter une accusation sur le tennis. On a la chance en France d'avoir un tournoi du Grand Chelem, Roland-Garros. Il n'y a pas que ça, il y a aussi Bercy, il y a beaucoup de tournois internationaux. Roland-Garros, ça se déroule sur terre battue. J'ai beau pas mal me balader sur la Dordogne et d'autres départements, je vois peu de cours en terre battue. Est-ce que ça, ce n'est pas quand même un petit problème ?
Alors, il y a peu de cours en terre battue, mais il y en a. On a plusieurs clubs, on va dire des gros clubs plutôt, entre guillemets, qui ont de la terre battue, puisqu'évidemment, ça a un coût d'entretien beaucoup plus important que quand on a des surfaces en béton poreux ou alors en green set. Donc, c'est principalement un problème de coût. Après, la fédération aide sur les rénovations en terre battue, sur les constructions en terre battue, puisque c'est un label aussi avec un label Roland-Garros. Justement, mais il y a aussi d'autres problèmes qui se greffent là, enfin dire assez récemment avec le réchauffement climatique, l'arrosage, ça coûte beaucoup d'eau pour arroser un terrain.
Ouais, en Espagne, ils y arrivent.
mais c'est vrai que nous, la Fédé a aussi un côté éco-responsable et il faut arriver à gérer tout ça.
D'accord, on l'entend. Aujourd'hui, quel est le tennisman ou la tenniswoman qui pourrait servir d'exemple au niveau mondial, je ne parle pas que au niveau français, pour nos enfants, pour toi Clément.
Moi, en termes d'exemple, alors moi je suis déjà un peu ancienne génération, on va dire. Moi j'aimais beaucoup.
Moins que moi.
Roger Federer qui était vraiment un exemple d'attitude, de fair play sur le terrain. Même si jeune, il n'avait pas toujours été irréprochable, mais il avait su justement corriger ses écarts de comportement. Puis en termes de travailleur, en termes d'implication dans le travail, on peut citer Rafael Nadal qui était un bourreau de travail. Moi je me souviens l'avoir vu plusieurs fois à Roland-Garros. On passait à 10h le matin, il était en train de s'entraîner avec une intensité incroyable. On repassait à midi, il était toujours sur le terrain. On repassait à 13h30, il y était encore.
Les Français, ils étaient où là ?
Je sais pas. Ils étaient en face, ils faisaient les sparring, mais il y en avait quatre qui s'étaient succédés entre temps. Non, je rigole parce qu'il y avait les Français qui sont des gros travailleurs. Et puis Novak Djokovic actuellement, alors qui est mal critiqué aussi, qui est pas forcément le joueur le plus aimé du circuit, mais qui a une hygiène de vie, toute tournée vers le tennis.
Et focus.
Et qui à son âge, il a 36 ans.
On est
encore très jeune, mais à 36 ans, et encore très très impressionnant. Il nous l'a démontré encore.
Il vient de battre un record, et les statistiques sont fantastiques. Le concernant, on l'aime ou on l'aime pas, mais à la fin, c'est le palmarès qui va rester. On a parlé tout à l'heure. En France, on est très sport d'équipe, on est très très patriote, on supporte la France. La Coupe Davis, quand j'étais gamin. On se levait le matin pour voir l'équipe de France jouer contre l'Australie en Australie. Est-ce que depuis la nouvelle réforme et la très riche idée, c'est ironique, de notre ami Gérard Piqué, le joueur de football qui a repris les droits, est-ce que cette nouvelle formule de Coupe Davis, c'est quand même pas... c'est néfaste en fait pour ce genre d'ambiance qu'on pouvait connaître ?
Alors oui, la Coupe Davis a connu pas mal de changements par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir. Après, voilà, il faut toujours, on va dire, des évolutions à un certain moment. Là, c'est vrai que c'est extrêmement critiqué. Et puis, on le voit, ça ne remplit pas les stades.
Je clairement, suis incapable de dire voilà. Qui a gagné et la Coupe Davis.
Mais moi, pareil.
Voilà, donc, pas, mais... voilà, on est d'accord. On se rappelle tous des exploits de la bande à Lecomte, Forge, voilà. On en parlait tout à l'heure. Même des matchs perdus de Paul-Henri Mathieu très tard dimanche soir. Ça faisait vibrer, ça. Et ça, on s'identifiait.
Exactement. Donc c'est vrai que cet esprit Coupe Davis a été un peu perdu. Alors après, voilà, je vais pas refaire tout l'historique, mais évidemment, il s'est passé beaucoup de choses pour en arriver là. Et puis il y a beaucoup de tractations, financières.
Et
puis voilà, il y a beaucoup d'argent aussi mis en jeu là-dedans. Il faut bien en avoir conscience. Mais bon, après, peut-être que ça va aussi réévoluer dans les années qui viennent. Je pense que rien n'est figé. On voit que ça évolue pas mal au sein des instances internationales, aussi dans les différentes fédérations, parce qu'il y a beaucoup de turnover aussi dans les dirigeants.
Oui.
Donc, je pense que rien n'est fermé. Clairement, ça ne fait pas l'unanimité. Et c'est vrai que dans beaucoup de pays, on est un peu déçus de cette nouvelle formule. Voilà. Après, l'avenir nous dira un peu ce qu'elle va devenir. Parce que si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Il faudra évidemment repenser les choses.
Bien sûr. En tous les cas, à titre personnel, je le souhaite vraiment de revivre des week-ends de Coupe Davis dans les arènes de Nîmes, comme il y a pu y avoir. Et ça, c'était juste exceptionnel de voir ça. En travaillant sur l'émission, en discutant autour de moi, le tennis, on m'a dit c'est un... tu vas parler des bourgeois. Est-ce que cette image du tennis, quel est l'esprit tennis, en fait ? Parce qu'on a l'impression que ce n'est pas accessible à tout le monde et que c'est un peu un sport de riche, on va dire.
Alors oui, c'est vrai, il y a toujours cette image qui colle depuis des lustres au tennis. Mais pour les gens qui sont dans les clubs, je pense qu'ils voient un peu la réalité du terrain. C'est-à-dire que sur les jeunes, en plus, maintenant, il y a des aides de l'État avec le passeport, il y a l'aide du conseil départemental, 50 plus 25 euros. Et on a, nous, dans les clubs, une politique aussi vraiment vers les jeunes, c'est-à-dire qu'on a des cotisations à l'année qui sont à 100, parfois 120, 150 euros avec ces aides-là, avec un enseignant professionnel, ce qui n'est pas le cas dans les autres disciplines, dans la plupart des autres disciplines, et beaucoup d'animation aussi à côté de vie. Et puis, on prête le matériel, donc ce qui fait que finalement, ça revient à un budget qui n'est pas si cher. Parfois, pour les adultes, oui, c'est un peu plus cher parce que justement, les clubs font l'effort sur les jeunes. Et puis, sur les adultes, on récupère un peu plus de cotisations.
Ça paraît logique.
Mais ça n'a jamais posé trop de problèmes. Et puis, les enfants qui étaient en difficulté, on a toujours été en moyen de les aider, de les accompagner au niveau financier.
Donc, n'hésitez pas à franchir les portes et les portails des clubs de tennis. On prend tout le monde. C'est quoi l'esprit tennis ? Comment on pourrait le définir ?
L'esprit tennis, c'est un esprit très convivial parce qu'on fait beaucoup... c'est pas simplement venir sur un terrain, s'entraîner, puis fermer la porte et repartir. On a beaucoup de tournois qui sont organisés. On a vu tout l'été des clubs qui étaient pleins. Le club du Coq, là, où on est juste à côté, tous les soirs jusqu'à minuit, 1h, 2h du matin, beaucoup de monde. C'est un bel esprit d'équipe aussi, puisque là, nous, on va redémarrer dans quelques semaines les matchs par équipe. Et il y a toujours énormément de gens qui viennent, qui ont plaisir d'aller jouer ces interclubs en automne, en hiver, en été... partout. Et puis c'est un sport, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est vraiment ouvert à tous. Voilà, quel que soit son niveau, on peut prendre plaisir sur le terrain de tennis, sur le terrain de padel. Et puis qu'on soit non classé ou numéro 95, il y a pas de souci, tout le monde prend plaisir.
Et autre chose, on parlait du tournoi du Coq-Chamier là qui a eu lieu, qui s'est terminé.
Fini dimanche.
Ouais, voilà. C'est fini dimanche, c'est ça. Donc samedi, j'ai vu quelques rencontres à l'occasion du forum des associations. Il y a de l'auto-arbitrage.
Oui.
Et ça se passe bien. Et moi qui viens des sports collectifs, quelle surprise!
Ça se passe plutôt bien. Il y a pas des jours où ça se passe moins bien.
Ouais.
Mais après, on a toujours un juge-arbitre qui est là. Donc, si problème peut rentrer sur le terrain. Puis, on a toujours des arbitres qui sont disponibles aussi. On recrute d'ailleurs dans les formations d'arbitrage. On a besoin d'arbitres puisque à partir d'un certain niveau, en championnat de France ou en pré-national, on a besoin d'arbitres sur toutes les rencontres. Voilà. Donc, à partir d'un certain niveau, toutes les parties sont arbitrées. Mais c'est vrai que sur le côté amateur, on a quand même ce fair-play parce qu'on a toujours un ou deux petits accros sur les tournois. Mais quand on a 200, 300 matchs en 15 jours, c'est pas beaucoup.
Ouais, voilà. C'est pas beaucoup, mais ça, c'est à signaler aussi de l'état d'esprit des joueurs. Malgré tout, on va rentrer dans la dernière minute de l'émission. Un petit mot pour un dernier petit mot pour les parents, pour un argument pour faire venir les enfants au tennis.
Bah, peut-être, mais pour le tennis et le sport en général, n'hésitez pas à venir nous voir, parce qu'on sait que les enfants qui pratiquent un sport, eh bien, ça peut les aider, notamment dans tous les aspects de la vie courante. Ça aide sur la motricité, ça aide sur le côté cérébral, sur la concentration. Et on voit qu'à l'école, ceux qui pratiquent un sport sont, on va dire, plus performants que les autres. Et puis nous, au niveau du tennis, n'hésitez pas à venir, même très jeune. Vous êtes bien encadrés avec des professionnels, avec des dirigeants de clubs, des bénévoles qui sont très très impliqués. On a la chance d'avoir aussi beaucoup de jeunes dirigeants et des dirigeants très très impliqués. Et n'hésitez pas, vous ne serez pas déçus, on vous accueillera du mieux qu'on peut.
C'est parfait. En tous les cas, ça donne envie d'aller jouer au tennis. On arrive bientôt au terme de l'émission. Merci Clément d'être venu nous voir dans un cadre connu, puisqu'on est les studios sont juste en face des cours du Coq Chamier. Voilà, du Coq Chamier Tennis. Et nous allons arriver au terme de l'émission. Donc merci encore Clément de ta venue.
Merci beaucoup, puis merci beaucoup pour la petite auberge espagnole à l'arrivée.
Ah, ça c'était off, ça. C'est pas grave. Ouais, il est bien tombé. Voilà, il y avait à boire et à manger avant de venir. Nous, on se donne rendez-vous. Alors, ce week-end, la reprise des championnats de rugby, il y a le foot qui continue, qui repart. Amenez vos enfants dans les écoles de sport de votre village, de votre ville. C'est important au niveau sociabilité, et si tout le monde pouvait faire du sport, ça rendrait peut-être la vie un peu meilleure. Voilà le mot de la fin. La semaine prochaine, normalement, nous parlerons football. Voilà, merci de nous avoir suivis, et vous pouvez nous réécouter en podcast dès demain et rediffusion de l'émission vendredi matin à 9h30. Merci, au revoir. RLP Sport, c'est fini, mais l'émission est toujours disponible en podcast sur le site de RLP. N'hésitez pas à la partager sur vos réseaux. RLP Sport, en direct, tous les mardis à 19h avec Thomas Delpero.